Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.
Et pour inviter aujourd'hui dans notre magazine régional, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Mireille Coulet. Bonjour, bienvenue dans le studio.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, à tous les auditrices et auditeurs de Fréquence Mistral. Merci à vous de m'avoir permis de venir m'exprimer.
Et oui, hein, c'est sûr qu'en ce début octobre, on a forcément pensé à vous. Donc, vous êtes présidente de l'association Ligue contre le cancer Alpes de Haute-Provence. Qui a le statut d'association, mais qui fait partie de la Fédération nationale de la Ligue
contre... De la Ligue nationale contre le cancer.
Voilà, est-ce que vous voulez dire quelques mots de la Ligue nationale ?
Alors, la Ligue nationale contre le cancer, c'est une très très grosse association, effectivement, et qui regroupe 103 comités départementaux. Ces 103 comités départementaux ont chacun leur particularité, hein, mais en ce qui concerne le 04, on est nos pratiques, on est en droite ligne des recommandations de la Ligue nationale, hein, sur les activités qu'on mène et sur les actions. Il faut savoir que la Ligue nationale est, au travers de ces 103 comités, hein, bien sûr, mais c'est elle qui regroupe tout, elle est le premier financeur privé de la recherche médicale. Je dis bien financeur privé, hein, je ne parle pas d'autre chose. Et que les comités locaux, donc comme la Ligue nationale, vivent uniquement des dons et des legs du public. Au travers, soit de dons qui peuvent donner lieu à l'établissement d'un reçu fiscal lorsqu'on reçoit des chèques, des virements, mais surtout des chèques, ou alors toutes les collectes qui sont faites au travers de toutes les manifestations tout au long de l'année. Voilà. Et également, une part importante, je ne pourrais pas vous en dire le montant, au travers des legs de personnes qui cèdent à leur décès leur bien ou une partie de leur bien à la cause du cancer, puisqu'ils connaissent la rigueur de la Ligue contre le cancer. On a le don en confiance, hein, qui permet d'avoir une traçabilité, une lisibilité, une transparence sur les financements pour rassurer effectivement les donateurs.
Peut-être qu'on peut rappeler aussi les grandes missions de la Ligue contre le cancer, donc prévenir, hein, évidemment, il vaut mieux prévenir que guérir, promouvoir la santé, accompagner les personnes malades et les proches aidants.
Absolument.
On n'y pense pas forcément au premier abord, mais il y a également les aidants. Faire avancer la recherche.
Absolument.
Vous le soulignez.
Et ça se traduit dans notre département, effectivement, au travers de l'aide qu'on peut apporter aux malades, pendant les traitements, après les traitements, pendant les périodes encore qui sont post-cancer, ou à leur famille, de l'accès à nos espaces bien-être de Digne et de Pépin. On en reparlera tout à l'heure, si vous le voulez bien.
Oui, bien sûr. Bon, on peut même peut-être donner quelques exemples de ce type d'atelier que vous proposez, si on veut se représenter.
Alors, les ateliers qui sont proposés dans nos espaces bien-être, c'est d'abord, on y reviendra sur les raisons, l'activité physique adaptée. Le sport, hein, puisque au plus on avance dans le temps et au plus on se rend compte que l'activité physique est essentielle pendant le traitement et après, et puis dans la vie de tous les jours pour tout un chacun, mais à plus forte raison lorsqu'on est malade. On a des ateliers de psychologues, enfin une psychologue qui intervient. La particularité, c'est que c'est assez difficile parfois de se déplacer vers nos espaces de Digne et de Pépin. Donc, nous sommes en train de travailler avec certaines structures du département, les communautés professionnelles territoriales de santé, mais pas que, sur la démarche aller vers le patient, de façon à pouvoir se rapprocher des malades, plutôt que ce soit les malades qui soient obligés de se déplacer vers nous. Tout ça, bien sûr, centralisé au niveau de notre comité, puisque l'accès doit quand même être régulé, hein. C'est des prestations qui coûtent cher, donc il faut vraiment que ça soit à bon escient. Mais voilà, cet accès aux psychologues pendant une longue période est aussi très très importante. L'assurance maladie permet aujourd'hui d'avoir des séances, 12 séances gratuites, enfin prises en charge par l'assurance maladie, hein, c'est gratuit pour le patient, mais c'est pris en charge quand même au titre des financements d'assurance maladie. Mais on sait que c'est pas suffisant sur la durée, donc généralement on prend la suite pour permettre au patient d'avoir quelqu'un à qui parler. On a ensuite de la sophrologie. Et puis des ateliers de pratiques manuelles pour aussi qui servent aussi à se regrouper, à se retrouver, à échanger dans un cadre autre. Hein, c'est très important pour les patients. De la réflexologie. Et nous avons également, et c'est très peu utilisé, c'est bien dommage, des activités liées au retour à l'emploi. C'est-à-dire une personne qui va prendre en charge, qui va faire ce qu'on pourrait appeler du coaching, mais qui n'en est pas vraiment, faut pas faire peur non plus avec ces termes, voilà. Mais qui va ramener la personne qui a eu un cancer et qui n'a plus d'emploi, qui l'a perdu, ou parfois peut-être qui n'en a pas souvent eu, à retrouver le chemin de l'emploi. Et ça, c'est aussi très important.
Oui, ça fait partie des aspects auxquels on ne pense pas forcément de prime abord. Et là, ce sont des ateliers, ceux dont vous parlez, qui sont proposés un peu tout au long de l'année.
Absolument.
Et bah, alors, par contre, si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour faire un petit focus sur le mois d'octobre.
Oui.
Donc, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu d'Octobre Rose ? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe pour vous dans
voilà.
cette période ?
Alors, Octobre Rose est effectivement un temps fort dans l'année, puisque c'est le mois... sur lequel, aujourd'hui, toutes sortes de structures, des municipalités, des associations, des commerçants se mobilisent pour accroître le dépistage du cancer du sein. Alors, pourquoi cette mobilisation ? Ben, je crois que, bon, je ne vais peut-être pas donner trop de chiffres, mais en donner un peu quand même, c'est nécessaire. Hein. Le cancer du sein, c'est 61 000 cas, en gros, chaque année, qui entraîne, en gros, 12 000 décès. Cette incidence des cancers augmente de 0,3% chaque année. C'est-à-dire que ça continue d'augmenter lentement, mais sûrement. Or, la détection des cancers, quand on parle de prévention des cancers pendant Octobre Rose, c'est pas vraiment de la prévention, puisque la prévention, ça voudrait dire quelque chose qu'on trouve avant que la tumeur soit installée. Mais à aujourd'hui, ça n'existe pas. Autant on peut avoir de la prévention sur le cancer du col de l'utérus, ça va passer par la vaccination des filles et des garçons contre le papillomavirus. Ça, c'est de la prévention, vraiment. La prévention dans le dépistage du cancer du sein, ça signifie suivre, passer ces dépistages, ces mammographies, pratiquer, on y reviendra peut-être, de l'autopalpation entre les 2 ans dans l'intervalle, de façon à arriver à détecter les tumeurs quand elles sont là, le plus tôt possible. Une tumeur détectée tôt, c'est une tumeur qu'on va guérir. Il n'y a pas de petit cancer, ça passe par des choses plus ou moins lourdes, parfois uniquement par de la chirurgie, mais parfois même petit, par des choses beaucoup plus importantes, hein, des traitements lourds, de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Mais aujourd'hui, plus de 90% des cancers détectés tôt, les patientes guérissent. Alors que les tumeurs qu'on découvre tardivement, on a 26% de survie à 5 ans. Donc, vous voyez l'écart. Donc, j'en appelle à tous ceux qui nous écoutent. Hein. On est tous des ambassadeurs de la prévention à ce niveau. Et en tout cas, il faut toujours inciter les personnes autour de soi, les personnes qu'on aime, à aller se faire dépister, à aller passer la mammographie de dépistage une fois tous les 2 ans. Parce que ça sauve des vies, tout simplement. Et les gens qu'on aime, on n'a pas envie de les voir souffrir et de les voir encore moins disparaître. Hein. Donc ça, c'est vraiment très très important d'avoir cette mobilisation. Alors pourquoi cette mobilisation et pourquoi ce dépistage organisé, il a été étendu en 2004. Donc il a plus de 20 ans. Il a les pourcentages de participation ont augmenté régulièrement au début et aujourd'hui ils diminuent, notamment après Covid. C'est extrêmement compliqué et donc les dépistages sont moins nombreux qu'avant, ce qui est une véritable catastrophe, hein, puisque, comme je l'ai dit, la maladie, elle ne diminue pas. Ce qui est très très important, c'est vraiment que les personnes se mobilisent. Alors, comment est-ce que ça se passe, le dépistage organisé ? Eh bien, entre 50 et 74 ans, les femmes reçoivent tous les 2 ans une invitation qui est maintenant adressée par l'assurance maladie. Cette invitation, elle arrive donc à la maison dans la boîte aux lettres. Il ne faut pas la mettre dans le tas de papier, il faut la garder en évidence et il faut prendre rendez-vous pour aller passer sa mammographie. Alors la mammographie, ce n'est pas un moment très agréable, hein. Personne ne vous dira que c'est très agréable, mais elle permet de détecter des tumeurs de plus en plus petites parce que les techniques évoluent. Et une tumeur détectée tôt, je viens de le dire, c'est une tumeur qu'on va pouvoir soigner et une personne qui va guérir et qui à 5 ans aura certes un mauvais souvenir, mais sera guérie. Ensuite, dans la pratique, on passe à mammographie. Alors, les délais de rendez-vous hein, sur le département, ils sont ce qu'ils sont à peu près ailleurs. On nous dit parfois qu'il y a des difficultés d'accès. J'ai encore regardé ce matin sur le centre de radiologie local. Les premiers rendez-vous sont au 28 octobre. On est en début du mois. Donc, en fait, quand on reçoit son invitation, on peut prendre un rendez-vous relativement rapidement puisqu'en fait, il n'y a pas eu d'urgence absolue. Hein. Ce n'est pas une urgence. Donc, voilà.
Donc, c'est un rendez-vous qui se prend en ligne.
Qui se prend majoritairement en ligne et de plus en plus, et c'est bien plus simple parce qu'on peut choisir son praticien, on peut choisir son lieu d'examen. C'est vrai que ce n'est pas accessible à tout le monde. Il faut peut-être aider aussi ceux qui sont éloignés un peu des systèmes informatiques à faire la démarche, hein, puisqu'on peut prendre rendez-vous pour sa mère, sa sœur, sa cousine ou sa voisine. Hein. On peut aider, et peut-être même que certaines associations, ou peut-être même que France Service peut aider à ce genre de choses pour les gens qui ne sont pas équipés informatiquement. Mais le téléphone reste aussi un moyen, ou peut-être de se déplacer, enfin ça c'est à voir avec eux. Donc lorsqu'on passe son examen, quel est l'intérêt du dépistage organisé par rapport à un dépistage qu'on appelle le dépistage individuel, c'est-à-dire je prends rendez-vous toute seule sans ma prise en charge chez le radiologue. Lorsque je prends rendez-vous toute seule sans mon invitation chez le radiologue, je vais avoir un radiologue qui va faire un cliché, qui va analyser mon cliché et qui va me remettre un compte rendu. Lorsque je m'inscris dans le cadre du dépistage organisé, c'est-à-dire lorsque je vais chez mon radiologue avec mon invitation de l'assurance maladie, avec mes coordonnées, avec mes étiquettes et tout ce qui va bien, le cliché lu par l'électroradiologue va partir au centre régional des cancers et le cliché va être relu par un deuxième radiologue. C'est cette double lecture qui fait tout l'intérêt du dépistage organisé. Et comme l'être humain a des forces et des faiblesses, la deuxième lecture permet de détecter 6% de tumeurs qui étaient passées au travers de la première lecture. Et pas uniquement dans la région, c'est un chiffre national. Donc il y a certainement des petits écarts, mais globalement 6%. Et 6%, c'est énorme. Donc l'intérêt de s'inscrire dans un dépistage organisé, il est là, c'est j'ai un deuxième œil qui va regarder mon cliché et qui va voir si, oui ou non, il est passé quelque chose au travers. Après, pour ceux qui ont peur des résultats, il faut savoir qu'on peut trouver des choses au travers d'un cliché qui ne sont pas forcément des cancers. Il y a des tas de petits kystes ou autres qui ne sont pas des cancers. Donc oui, on a quand même un coup de chaud, hein, parce que quand on a son résultat et qu'on vous annonce que vous avez une tumeur, on pense tout de suite au pire, mais pas tout ne sera cancéreux. Voilà.
Et cette deuxième lecture, donc ça n'est pas le cas si on prend rendez-vous indépendamment.
Tout à fait. Ah ben oui. Si on prend rendez-vous indépendamment, le dépistage individuel, vous avez un médecin qui vous fait un compte rendu, point, trait, il vous l'envoie, c'est terminé.
Et oui, donc ça, c'est important de
c'est souligner. Toute la différence.
Et peut-être qu'on peut dire quelques mots également du suivi médical, puisque là,
Y a... Alors ça, c'est les mammographies, comme on l'a vu, donc, elles s'adressent à toutes les femmes entre 50 et 74 ans, hormis une minorité qui est déjà suivie, qui, elle, est éloignée, parce que l'assurance maladie extrait de ces fichiers les personnes qui ont déjà des suivis ou dans certains cas. Donc, en fait, on adresse les invitations aux femmes qui sont éligibles, mais qui sont en état, en bonne santé, en gros.
Donc si vous recevez le courrier, c'est que vous êtes en bonne santé.
A priori, c'est que tout va bien, en tout cas au moment où vous recevez le courrier. Pourquoi 50 et 74 ans ? Eh bien, tout simplement parce qu'en termes de santé publique, on sait que 80% des cancers du sein interviennent après 50 ans. 80%. Donc en santé publique, on raisonne toujours sur des grands volumes et sur des où est-ce que c'est le plus pertinent. L'âge moyen du diagnostic du cancer du sein est de 64 ans. Mais on peut avoir, bien sûr, malheureusement, des cancers avant et des cancers après. Ce qui veut dire que avant 50 ans, et les recommandations, c'est à partir de 25 ans, il faut impérativement avoir un suivi médical. L'idéal, c'est tous les ans. Et qu'un médecin examine les seins et fasse une autopalpation et prescrive si besoin une mammographie qui, dans ce cas, ne pourra être qu'une mammographie individuelle. Idem, après 74 ans, quelqu'un qui a un suivi, on peut le continuer en allant chez son médecin et en se faisant prescrire une mammographie, un dépistage individuel. C'est même recommandé de le faire, puisque les cancers, on connaît tous des gens très âgés qui peuvent développer des cancers du sein. Au-delà de la mammographie, les bonnes démarches de prévention, c'est aussi pour les femmes de savoir pratiquer l'autopalpation. Alors, dans les comités maintenant de la Ligue contre le cancer, mais également certaines structures comme les communautés professionnelles territoriales de santé, s'équipent de bustes d'autopalpation. C'est-à-dire qu'on va avoir un buste avec des seins de femmes qu'on va pouvoir mettre sur soi, mais pas obligatoirement, et apprendre à rechercher à l'intérieur les petites choses qui sont anormales. Pourquoi ça ? C'est parce que ça dédramatise aussi l'autopalpation. Il y a des tas de femmes qui ne connaissent pas leur corps, alors que l'idée, c'est d'apprendre à connaître son corps. On va apprendre à reconnaître sa morphologie et on va pouvoir détecter lorsqu'on pratique l'autopalpation régulièrement. Quand on dit régulièrement, l'idéal, c'est tous les mois. On va pouvoir découvrir des choses anormales qui vont nécessiter un rendez-vous chez son médecin traitant et examen complémentaire si besoin. Et c'est très important aussi parce que si on a la malchance d'avoir quelque chose qui se développe juste après qu'on ait eu sa mammographie à laquelle on n'a rien trouvé, attendre 2 ans, c'est beaucoup trop long et ça donne le temps aux tumeurs, si elles sont malignes, bien entendu, de devenir des choses plus avancées que si l'autopalpation a permis de le déceler. Au-delà de l'autopalpation, il y a aussi le visuel, c'est-à-dire que devant sa glace, on peut tout à fait regarder l'aspect, enfin, il est recommandé de regarder l'aspect de sa poitrine. Un mamelon qui a changé de forme, une forme de sein, un creux, une bosse, visuel devant sa glace, c'est aussi des choses qui doivent alerter. Et il ne faut pas se dire, ouais, ça va se remettre tout seul et tout ça. Il vaut mieux aller en parler avec son médecin traitant, une fois de plus. Bon, son gynécologue médical, si on en a un, mais le médecin traitant peut tout à fait aussi se charger de ça. Voilà.
Et ce sont des gestes de prévention qui sont compliqués à apprendre, à intégrer, ou est-ce qu'en une demi-journée, on peut déjà avoir...
Ou même pas, c'est quelques instants, puisque c'est fait pour. C'est des matériaux qui sont prévus pour. Alors, ils ne sont pas tous identiques, mais voilà. Et à l'intérieur, on a des choses, des granuleuses, enfin, des différentes formes qui permettent aux gens de ressentir l'aspect différent d'un sein par rapport à l'autre. Et voilà. Et l'idéal, c'est d'arriver au travers de ça, de se l'appliquer à son propre sein. Ce qui veut dire se connaître et savoir reconnaître la différence à un moment donné si elle arrive.
Et oui, c'est pour ça que je pose la question, parce qu'on peut se dire, oulala, mais moi je suis pas médecin, peut-être que je vais passer au travers. Là, y a, dans le genre d'atelier que vous proposez, il y a un accompagnement là-dessus aussi.
Oui, il y a un accompagnement. En fait, les personnes qui font la démarche de venir vers ça sont déjà, ont déjà fait une partie du chemin. L'idée, c'est d'en attirer davantage. Et c'est pour ça que ce buste, il attire l'œil, et que on espère que ça va attirer aussi la bonne pratique derrière. Et surtout, la régularité de la bonne pratique, je le répète, l'autopalpation, c'est pas une fois tous les 2 ans ou tous les 3 ans si on fait pas la mammographie, c'est régulièrement. En période pour les femmes jeunes, pas en période de règles, puisque l'effet hormonal fait qu'il y a des choses parfois bizarres. Et puisque j'ai l'occasion aussi de détailler un petit peu, pas s'arrêter uniquement au sein, mais aussi remonter sous les aisselles, parce qu'il y a parfois des choses qui peuvent être un petit peu déportées, tout dépend de la taille de sa poitrine et de sa morphologie. Et donc l'autopalpation, il faut vraiment qu'elle soit assez large. Voilà. Les sages-femmes, les médecins peuvent apprendre l'autopalpation. Le médecin électro, le radiologue qui passe les mammographies, pratique une autopalpation, ça fait partie de ce qu'il doit faire lorsqu'il fait la mammographie de dépistage, normalement aussi lorsqu'il fait la mammographie, mais rien n'est écrit de la même manière. Donc ça peut aussi s'apprendre à ce moment-là avec ces professionnels de santé. Les sages-femmes sont tout à fait à même d'expliquer, et d'ailleurs le recours à la sage-femme pour aller faire son suivi est une des solutions en l'absence de médecins, de gynécologues. Les sages-femmes sont là pour s'occuper de la vie de la femme, de l'adolescence jusqu'à la mort, bien au-delà de la ménopause aussi.
Et alors, dans ces gestes de prévention que vous citez, l'avantage, c'est que tout le monde y a accès.
Absolument.
Et je pense, par contre, au suivi médical ou au dépistage, par exemple, qui demande à se déplacer. Quelles possibilités y a-t-il pour les publics qui sont éloignés des structures de santé ?
Alors, c'est vrai que notre département, nos vallées encaissées, ne sont pas extrêmement favorables à une proximité immédiate avec les cabinets de radiologie. Toutefois, quand on habite dans nos vallées, la plupart du temps, on est amené à se déplacer de toute façon vers Digne, vers Manosque, vers Sisteron, ou vers Gap, ou vers une autre ville, pour aller faire ses courses, pour faire ses démarches administratives. Donc, rares sont quand même les personnes qui n'ont vraiment aucun moyen de locomotion. Les collectivités, on a des réseaux de bus qui certes sont des fois pas très, correspondent pas forcément, il faut rester un petit peu plus longtemps que prévu, mais je crois quand même que c'est la motivation qui fait tout l'intérêt. Après, il y a aussi de la solidarité, dans les villages, parfois on peut être amené par quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que notre région n'est pas encore équipée, comme certaines autres, de bus dans lesquels on pourrait faire une mammographie. Ça n'existe pas ici, ça existe en Auvergne et dans d'autres régions, mais pas chez nous.
Alors, on parlait des publics qui sont potentiellement éloignés des structures de santé et des moyens qui peuvent être mis en œuvre. Parmi les nouveaux moyens, il y a notamment la numérisation, l'intelligence artificielle. Quel rôle tout cela joue, je ne sais pas, par exemple, dans l'examen d'analyse d'images, est-ce que ça...
Alors, dans l'examen, bien entendu que pour l'instant, l'intelligence artificielle, l'examen lui-même, il faudra toujours aller mettre ses seins entre deux lamelles et les écrabouiller pour qu'on y voit quelque chose. Pour l'instant, il n'est pas question de dire qu'il faut passer d'autres examens, ça se fait comme ça. Les techniques évoluent et l'intelligence artificielle, on sait qu'elle va pouvoir apporter énormément de facilité, puisque si on fait digérer à l'intelligence artificielle des milliers ou des millions de clichés, il va pouvoir y avoir à un moment donné une analyse qui va peut-être être assez fine. À aujourd'hui, on en est encore avec de l'humain. Ça évoluera certainement, mais je ne peux pas vous en dire davantage à ce jour.
À ce stade-là.
J'ai vu dans la presse des tas de choses assez techniques ces derniers jours. Donc oui, ça bouge, mais pour l'instant, on va déjà se cantonner. Si on arrive déjà à pratiquer les examens et à faire augmenter le taux de participation au dépistage organisé de la façon qui est pratiquée aujourd'hui, c'est déjà très bien et ça permet de sauver des vies. Juste un petit mot sur la prévention au sens large des cancers.
Bien sûr.
Parce que on a parlé beaucoup de cancers du sein, mais 40% des cancers sont évitables. Ça, c'est quelque chose ça fait presque un sur deux qui sont évitables. Et ils sont évitables comment ? Ils sont évitables en modifiant nos habitudes de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, modifier nos comportements et nos habitudes de vie ? Ça veut dire réduire les consommations d'alcool. Alors, en 2018, on a eu des études sur le cancer du sein. Là, je vais revenir au cancer du sein parce que c'était sur ce qui a été étudié et sur laquelle il y a tellement de choses que je me suis focalisée. Mais en 2018, on avait 8700 cas de cancer attribuables à la consommation d'alcool. Je vous ai dit tout à l'heure, on était sur 62 000 cas par an. Le surpoids et l'obésité, qui sont aussi des facteurs de risque. Sur le cancer du sein, en 2018, on attribue 4 900 cas au surpoids et à l'obésité. Le tabac, sur le cancer du sein, ça a l'air loin, les poumons et le sein, c'est tout près. 2600 cas de cancer par an attribuables au tabac. L'alimentation déséquilibrée, c'est-à-dire pas assez de fibres, pas assez de produits laitiers, trop de viande rouge, trop de viande transformée, les produits ultra transformés. 2500 cas de cancer du sein qui auraient pu être évités en 2018. Et puis, le manque d'activité physique, la sédentarité, qui est une véritable catastrophe. Il faut apprendre aux enfants à bouger dès le plus jeune âge. Avec les écrans, ce n'est pas toujours facile. Et il faut réapprendre aux adultes, et en particulier aux femmes ménopausées qui ont été atteintes de cancer, à bouger, à avoir une activité physique adaptée. Et ça, on le propose dans les espaces ligues.
Alors, qu'est-ce que vous appelez activité physique adaptée ? Ça va ressembler à quoi, par exemple ?
Alors, l'activité physique adaptée, ce sont des personnes qui sont formées pour prendre en compte la spécificité de chaque individu qui va venir. On ne va pas faire la même chose à une personne à qui on a enlevé des ganglions sous le bras qu'à une personne qui a été opérée d'un autre cancer au genou, je vous dis n'importe quoi. C'est la personne qui a été opérée du genou, elle a les épaules libres. La personne qui a eu un cancer du sein et à qui on a enlevé des ganglions, elle, ses épaules, il va falloir les arriver à bouger, mais de façon tout à fait douce, harmonisée. Et ça, les éducateurs sportifs qui prennent en charge nos patientes le savent parfaitement le faire. En plus, on retrouve une vie de groupe à ce moment-là. Vous les avez, ils ne sont pas loin de chez vous. Hein. Si le vendredi matin, vous entendez des éclats de voix sur la terrasse quand il fait beau, c'est quand ils sont en train de faire leur mouvement. Et c'est vraiment pour eux un moment qui leur fait du bien, qui leur fait du bien au corps et qui leur fait du bien à l'esprit. Donc, voilà.
Donc, activité physique adaptée, également des conseils en diététique, hein, puisqu'on soulignait...
Oui, absolument. Conseils en diététique également. Alors ça, aujourd'hui, on en a de plus en plus, mais on en donne aussi au niveau, bien sûr, de la Ligue. La diététique, c'est très, très important. Augmenter la consommation de fibres, c'est-à-dire les fibres, diminuer les produits ultra-transformés, faire soi-même, en gros. Aller acheter ses fruits et ses légumes les plus sains possibles, bio si on peut. On a la chance sur nos marchés, dans la région, on a des tas de producteurs locaux qui vendent des produits de qualité. Si on va faire le marché avec des prix qui sont tout à fait raisonnables, et puis il faut acheter des fruits et des légumes de saison, ils sont beaucoup moins chers. On a aujourd'hui, en ce moment, hein, de la courge, du potimarron et des tas de légumes qui permettent de faire des super belles choses à des prix qui sont tout à fait abordables à tout un chacun.
Donc les conseils en diététique, on l'a cité aussi, le soutien psychologique, l'écoute, mais également la Ligue peut accompagner pour faciliter des démarches administratives, faire valoir ses droits, limiter l'impact financier de la maladie aussi.
Alors, faire valoir ses droits, nous, on n'a pas de travailleur social au sein de nos bénévoles, et c'est bien dommage. Par contre, on a une commission qui statue sur des dossiers d'aide financière. C'est-à-dire que la Ligue peut, en dernier recours, attribuer une aide financière à quelqu'un, parce que c'est quelque chose qui est atypique, qui n'a pas pu être financé, enfin, pour lesquels on n'a pas pu attribuer de secours par ailleurs. Ça peut être, par exemple, à l'entrée de l'hiver, quelqu'un qui est malade et donc, évidemment, qui va perdre son emploi et qui se retrouve avec des indemnités journalières, la moitié de son salaire, hein, et qui n'arrive pas à remplir sa citerne de gaz ou peu importe, en tout cas, qui n'arrive pas à se chauffer. On va pouvoir l'aider. Ça va pouvoir être aider à héberger un papa à côté de l'hôpital, parce que dans nos grands hôpitaux, nos CHU, où on a des soins d'une extrême qualité, il y a une place pour la maman, mais pas forcément pour le deuxième parent. Enfin, il y a une place pour un parent, pas forcément pour le deuxième. Dans certains cas, la présence du deuxième parent est indispensable, notamment quand on rencontre des problèmes de langue. Et donc, on peut aider à l'hébergement de ce deuxième parent. Alors, soit par des aides financières, soit aussi parce qu'on peut faire un lien avec d'autres associations qui nous offrent des possibilités. Et puis après, on a, par exemple, l'accès à certains produits. Je pense notamment à des crèmes et tout ça qui sont extrêmement chers, qui sont indispensables quand on a des séquelles de chimiothérapie, où on peut accorder des... Alors, ce n'est pas forcément des gros montants, mais ça permet aux personnes d'avoir la crème ou la lotion qui convient bien à cette problématique à un moment donné. Et les montants peuvent être très variables. Voilà. Il suffit que un travailleur social... Si le travailleur social de secteur constitue un dossier et nous le transmette pour qu'on puisse l'étudier et accorder des aides financières.
Donc il y a de nombreux soins de support qui sont proposés, ceci dans l'ensemble de la France, mais ce serait peut-être intéressant qu'on revienne aussi sur la région PACA.
Oui.
Et est-ce que vous voulez faire un bilan de où on en est en termes de dépistage et de suivi?
Alors, oui, on va revenir sur la région PACA, qui a effectivement bien besoin que tout le monde se mobilise, hein, puisque la région PACA est un mauvais élève du dépistage organisé, comme les Parisiens. Hein, c'est là qu'on se retrouve, hein, pour ceux qui m'écouteraient. On a une spécificité, c'est qu'on est bien pareil que les Parisiens en termes de dépistage. La France n'a pas une culture de prévention, mais alors la région PACA encore moins. Seul le département 05 a un bon taux de dépistage organisé. La prévention dans le 05 est quelque chose qui, de tout temps, hein, j'ai une vie avant la Ligue dans l'assurance maladie, et la prévention dans le 05 a de tout temps eu un meilleur écho que dans le 04, alors qu'on a l'impression qu'on se ressemble beaucoup, on ne se ressemble pas. Et les trois départements de la côte, hein, le 13, le 06 et le 83, ont les taux parmi les plus faibles de France. Voilà. Et nos taux sont en diminution Voilà. Alors, sur le 0,4, qui avait un taux qui était moyen, alors tout dépend, il faut faire très attention avec les chiffres, parce que certains chiffres vont inclure le diagnostic organisé et le diagnostic individuel, et d'autres ne parlent que du diagnostic organisé. Dans le 0,4, sur les chiffres qu'a communiqué la CEPAM dans la presse dernièrement, cumul diagnostic organisé et diagnostic individuel, on avait un peu moins de 59% des femmes qui étaient éligibles, qui avaient fait leur examen. Et la CEPAM a, au cours de l'année, fait un gros travail de phoning individuel, a appelé les personnes qui ne s'étaient pas faites dépister et obtiennent des créneaux de rendez-vous, c'est-à-dire qu'elle prend directement le rendez-vous chez l'électroradiologue et le communique à la personne qui accepte d'aller faire l'examen. Et à ce jeu, ils ont amélioré le taux de dépistage d'environ 4%, ce qui est énorme. Mais malgré ça, le 0,4 reste quand même bien en deçà des taux de dépistage moyens au niveau du taux de dépistage national. Et de toute façon, le taux de dépistage au niveau national est bien trop faible. Il faudrait arriver à l'augmenter, tout confondu, de l'ordre de 75 ou 80% pour que ça ait vraiment du sens pour tout le monde. Il faut juste rappeler que le dépistage organisé, c'est quelque chose qui est pris en charge intégralement. C'est pris en charge par l'assurance maladie. Alors, on dit que c'est gratuit, ça l'est pas, hein, ça a un coût. Mais le coût de la prévention, ben, ça n'a pas de prix parce que ça évite quand même bien des soucis. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir.
On a une idée des raisons pour lesquelles la région PACA, le 0,4 sont particulièrement mauvais élèves dans la prévention.
Il faudrait faire une étude. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Ça dépasse largement. C'est aussi... le 0,5 a toujours eu un tissu... les médecins traitants, dans les années... au moment où on avait instauré le médecin référent, le 0,5 avait une couverture de médecins référents qui était très importante et des médecins qui aussi faisaient la promotion de la prévention. Ça en est suivi, certainement, une bonne pratique. Enfin, voilà, c'est difficile à expliquer comme ça. En tout cas, ce n'est pas dans mes compétences de vous le dire, mais c'est un fait et c'est bien dommage.
Ben, on vous remercie, en tout cas, Mireille Coulet, pour toutes ces précisions et ces informations. Si on veut retrouver, vous contacter, avoir plus d'informations sur la Ligue contre le cancer, il vaut mieux se tourner vers quoi qui on peut contacter?
À la Ligue contre le cancer?
Oui.
Eh ben, écoutez, la Ligue qui se situe chemin des Alpilles, hein, juste en face des locaux de Fréquence Mistral.
Oui, pour la ville de Digne, on est tout, voilà, à côté, effectivement.
Et après, tout comité de la Ligue contre le cancer dans les départements, hein, chacun a le sien dans la région, donc voilà, le 0,5 est très actif, ils ont un tissu de bénévoles qui est très dense, les gros départements de la côte aussi, et nous sommes un peu plus pauvres et un peu plus démunis, donc j'en profite le 0,4 pour lancer un petit appel. Si vous êtes sur le 0,4 et que vous voulez donner un peu de votre temps, hein, pas à H24 et pas à 361 jours par an, mais donner un peu de votre temps à une bonne cause, la Ligue contre le cancer manque de bénévoles et manque aussi d'administrateurs. Donc voilà, l'appel est lancé. Mais je pense que c'est aussi valable pour les autres départements, puisque malheureusement, quand on lit même ce qu'on peut lire sur les autres associations, on connaît aussi une crise du bénévolat. Donc ceux qui sont encore riches de bénévoles aujourd'hui, tant mieux pour eux. J'espère pour eux que ça va durer, mais voilà, on a quand même l'engagement bénévole aujourd'hui est quelque chose qui n'est pas en expansion.
Et vous recherchez des profils en particulier ou tout
Pas
type
du tout.
D'aide et,
tout profil.
Et
là, sur les manifestations dernières, on a eu des petites jeunes qui sont encore au lycée et qui sont touchées par ce qu'elles voient autour d'elles et qui ont envie de travailler pour la bonne cause et qui vont venir nous rejoindre. Donc on est bien contents parce que ça permet de toucher une autre cible, hein, également, hein, parce que peut-être qu'on va arriver à développer quelque chose vers les jeunes et notamment pour la vaccination contre le papillomavirus. Où y a personne de mieux placé qu'un jeune pour parler à un autre jeune. Voilà. Même si les plus anciennes peuvent le faire et savent le faire.
Bien sûr.
Voilà.
Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'il y a certains aspects que vous vouliez aborder qu'on aurait oublié?
Ben écoutez, On a dit beaucoup de choses déjà.
Oui.
Je vous remercie de m'avoir permis de le faire.
Bah, je vous en prie, on peut rediriger éventuellement les auditeurs et les auditrices sur le site hein, ligue-cancer.net avec donc un siège pour chaque département si vous voulez vous rapprocher d'une structure qui soit plus proche de chez vous.
Voilà, et si vous constatez, si vous avez des connaissances qui sont en difficulté par rapport à leur maladie, voilà, c'est important, ils peuvent avoir un soutien précieux.
Mireille Coulet, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association donc Ligue contre le cancer des Alpes de Haute-Provence. On vous remercie d'être venue sur ce plateau pour nous parler d'Octobre Rose, mais pas que, puisque ça, c'était valable aussi sur l'ensemble de l'année et du territoire.
Oui, moi je remercie Fréquence Mistral hein, de cette petite tribune qui nous est offerte, ou cette longue tribune qui nous est offerte.
Merci beaucoup. Merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir suivi notre magazine régional. Toute l'équipe de Fréquence Mistral vous souhaite une excellente journée. Et on va se quitter en musique avec Toby Mac, Help is on the way sur Fréquence Mistral. Excellente journée à toutes et à tous.
Maybe midnight or midday, never early, never late. He gon' stand by what he claimed. Lived enough life to say.
I heard your heart, I see your pain. Out in the dark, out in the rain. Feel so alone, feel so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday. It's never early.